Bonsoir Tara.
Bonsoir, bonsoir. Donc Mathilde, vous me lancez pour le journal, j'imagine.
Oui, c'est le journal de Tara Schlegel.
La consécration d'un poète et d'un musicien, un prix Nobel ébouriffant, disent les critiques de rock. C'est donc Bob Dylan qui a été choisi par l'Académie couronnée du Nobel de littérature, ce qui a créé quand même la surprise. À 75 ans, Dylan s'inscrit dans la lignée de Sappho, de Homère, a estimé le jury. Ce n'est donc pas vraiment de quoi s'étonner, nous dira Cécile de Kervas-Doué. Les évêques de France écrivent au peuple désenchanté pour qu'il retrouve le sens de la parole politique trop souvent dévoyée. C'est une lettre de 60 pages qui sort en librairie et dans les kiosques. C'est aussi une première en pleine campagne électorale, nous dira l'historien des religions Odon Vallée. Dans cette édition, nous reviendrons sur le diesel. Le ministère de l'écologie veut supprimer les avantages fiscaux liés aux voitures polluantes dans les entreprises. Nous irons en Thaïlande qui pleure la disparition de son roi. Le pays est divisé, touché par une crise politique depuis 10 ans. Le monarque était un ferment d'unité nationale, nous dira Arnaud Dubus. Et puis nous irons en Centrafrique où une vague de violence a saisi le pays. 30 morts au moins, ce sera une correspondance de Saber Djendoubi. Plus de 500 chansons et donc autant de textes poétiques, 37 albums. Il s'est sans cesse réinventé, a expliqué le jury de l'Académie suédoise. Il est en tout cas le premier chanteur couronné par le Nobel de littérature depuis la création du prix en 1901, Bob Dylan. Plus personne ne l'ignore. Icône du rock américain, a obtenu la plus haute distinction littéraire. Dylan, passionné de Baudelaire, de Rimbaud, de Verlaine, des classiques russes, des haïkus japonais, avait découvert d'abord le folk à la fin des années 50 en Amérique avant de brancher sa guitare sur un ampli, d'électriser ses morceaux à partir du milieu des 60s. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
C'est donc un auteur, compositeur, interprète culte qui reçoit le Nobel de littérature. Alors c'est évidemment une surprise, mais en réalité, il ne faut pas s'étonner que Dylan soit ainsi reconnu, Cécile.
Mais non, Bob Dylan écrit de la poésie pour l'oreille, a expliqué Sarah Danius, la secrétaire générale de l'Académie suédoise, en décernant le Nobel à cette icône de la pop culture. Et comme si elle voulait prévenir les critiques, elle a aussi précisé que bien sûr, Bob Dylan est le premier chanteur à obtenir un prix Nobel, mais si vous regardez bien, 5000 ans en arrière, vous découvrirez qu'Homère et Sappho écrivaient eux aussi des formes poétiques destinées exclusivement à la scène. Or, nous lisons encore aujourd'hui Homère et Sappho, dit-elle. D'ailleurs, dès le début de sa carrière, le chanteur lui-même se voit comme un héritier des chanteurs folk, c'est-à-dire à la fois musicien et auteur. Et c'est comme ça que Robert Zimmermann, de son vrai nom, se choisit son pseudo en référence au poète gallois du XXe siècle, Dylan Thomas. Alors, il ne faut pas croire que ce prix Nobel donne une légitimation culturelle à l'œuvre de Bob Dylan, puisque finalement, elle est là dès le départ. Il n'y a qu'à écouter, par exemple, l'album Blonde on Blonde de 1966, prévient encore la secrétaire de l'Académie suédoise, avec, par exemple, cette chanson « I Want You ». The drunken politician leaps upon the street where mothers weep and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken. Dans ce passage, il est question d'un politicien ivre qui bondit dans la rue où des mères pleurent et les sauveurs plongés dans un profond sommeil, ils t'attendent et je les attends pour pouvoir arrêter de boire dans une tasse ébréchée et pour qu'ils me demandent d'ouvrir grand la porte pour toi. Je te désire tellement. On entend là, outre la sensualité et les sous-entendus sexuels assez révolutionnaires pour l'époque, toute la poésie surréaliste de la beat génération qui accompagne finalement toute l'œuvre de Bob Dylan et qui montre l'habileté de Dylan à rimer, à mettre des refrains ensemble.
Alors il y a aussi évidemment, Cécile, tout un aspect politique chez cet auteur.
Mais oui, ça aussi, dès le départ de sa carrière, Bob Dylan est perçu comme un chantre de la contre-culture. Dans ses chansons, il chronique à chaque fois les époques et change d'ailleurs sa manière de chanter, de dire les mots avec les décennies parce que pour lui, le plus important, dit-il, c'est que les mots, la voix, soient le reflet d'une vérité. Alors, dans les années 60, il va raconter les troubles américains de son époque, c'est-à-dire la guerre du Vietnam, la lutte pour les droits civiques et surtout, surtout, le désir de la jeunesse de renverser l'ordre établi. You've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. Ici, dans Ballad of a Thin Man de l'album 61 Revisited, Bob Dylan raconte la rencontre de deux générations qui ne se comprennent plus avec l'histoire de cet homme, Mr. Jones, si cultivé, qui plaît en société, qui a un si bon réseau, qui a tellement lu, qui a débattu de tous les sujets, qui a même lu Scott Fitzgerald, et qui s'en vante, et pourtant, qui ne comprend rien à ce qui se passe devant lui, alors même qu'il se passe quelque chose. Un message sans doute à tous les politiques.
Merci Cécile de Kervas-Doué. Et puis tout à l'heure à 19h, bien sûr, Ping Pong revient sur le prix Nobel de littérature 2016, mais aussi sur la disparition de Dario Fo. L'Italie pleure son Nobel de littérature 1997. Écrivain, homme de théâtre, Dario Fo, né en 1926 dans un milieu ouvrier antifasciste, qui s'est lancé très tôt sur les planches. Il est donc mort à l'âge de 90 ans, auteur de La mort accidentelle d'un anarchiste ou encore de La marijuana de maman et toujours la meilleure. Il avait l'humour chevillé au corps et certains lui ont quand même reproché son engagement aux côtés du mouvement 5 étoiles à la fin de sa vie. De l'art de se fâcher avec les joueurs de football professionnels auxquels il conseille de faire de la musculation du cerveau avec une frange de sa gauche quand il explique qu'il regrette de ne pas avoir convaincu sur la déchéance de la nationalité ou encore, et c'est sans doute plus grave, avec la justice dont il doit pourtant garantir l'indépendance. François Hollande s'est donc brouillé avec pas mal de monde depuis la sortie du livre « Un président ne devrait pas dire ça » chez Stock. Bonsoir Armel Balogog.
Bonsoir.
Alors François Hollande traite notamment la magistrature d'engeance, d'institution, de lâcheté dans ses entretiens, ce qui a fait réagir jusqu'à la Cour de cassation, qui est au sommet de la hiérarchie judiciaire. Alors le gouvernement s'est efforcé de défendre l'Élysée.
Et oui, c'est d'abord son ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qui a pris la parole ce matin à l'Assemblée nationale face à un député Les Républicains. Puis cet après-midi, le Premier ministre, lors d'une conférence de presse à Ottawa, au Canada. Ils disent tous les deux la même chose en substance, à savoir que le président a toujours respecté la justice. Écoutez la défense de Manuel Valls.
Au cours du quinquennat de François Hollande, rien n'a été fait contre la justice. Rien. Ni contre la justice, ni contre les juges. L'indépendance de la justice, l'absence de toute intervention politique dans les affaires individuelles, ont été la marque de l'action de François Hollande, du gouvernement et des gardes des Sceaux, Christiane Taubira et aujourd'hui Jean-Jacques Urvoas.
Pour le ministre, le débat s'arrête là, mais côté magistrat, ce mode de défense du président ne fait qu'aggraver le sentiment d'humiliation. Céline Parizeau, la secrétaire générale de l'Union syndicale des magistrats.
Il a tenu un double discours. Il a effectivement, dans les faits, démontré qu'il respectait la justice. Et pour autant, manifestement, ça ne reflétait pas le fond de sa pensée, puisque quand il s'exprime librement devant des journalistes, c'est pour tenir des propos stigmatisants. Nous demandons effectivement maintenant des excuses. Je crois qu'il n'y a plus que ça.
Des excuses en faute d'un démenti du président hier soir. Il a rencontré les deux plus hauts magistrats de France, mais ça n'a pas suffi à atténuer leur colère. Après des propos jugés dangereux et injustes par le Conseil supérieur de la magistrature. Demain, c'est au tour du garde des Sceaux de recevoir les conférences des premiers présidents et des procureurs généraux. Le but du rendez-vous, leur assurer la confiance du gouvernement.
Merci Armel Balogog. Hier, François Hollande avait aussi donné une longue interview à l'Obs, entretien sur demande express de l'Élysée, comme l'a confié ce midi Aude Lancelin. Elle était l'invitée d'Antoine Mercier, elle-même directrice adjointe du Nouvel Obs avant d'être licenciée il y a 6 mois.
Le Nouvel Observateur, mon ancien journal, a effectivement déclenché cette opération in extremis comme un contre-feu, prévenu de la sortie imminente du livre.
C'est un contre-feu.
L'Élysée a demandé cette interview et Arnaud Montebourg, qui devait faire la une du journal, a été décommandé au dernier moment, sans qu'on lui donne jamais la véritable raison de la chose, puisqu'on lui a dit qu'il s'agissait des primaires de la droite. Il a découvert dans le journal que François Hollande avait demandé 9 pages pour s'exprimer.
Aude Lancelin dans le journal de 12h30 à France Culture. La primaire à droite avec le premier débat télévisé ce soir. 7 candidats, ce sera à 21h, tout est codifié. Chacun a 1 minute pour répondre aux questions, 30 secondes pour répliquer s'il est invectivé par un adversaire. Il paraît que les postulants se sont longuement entraînés à l'art de la synthèse. Alain Juppé est largement favori dans les sondages. Il a presque 2 fois plus d'intentions de vote pour l'instant que Nicolas Sarkozy. Ils se mêlent de politique et ont écrit une lettre de 60 pages. La conférence des évêques de France s'adresse aux citoyens. Comment redonner un souffle, des raisons de vivre ensemble quand la parole politique et publique est trop souvent pervertie, disqualifiée. Les hommes d'église pointent 10 exigences. Et pour Odon Vallée, historien des religions, cette contribution est une première en pleine campagne électorale. Elle arrive aussi dans un contexte compliqué pour l'Église de France.
Jamais les évêques de France n'avaient parlé aussi globalement du politique, du social, de l'économique. Ils essayent de sortir des débats habituels. Si vous regardez un peu la une de l'actualité avec l'Église catholique, c'était soit le terrorisme et le père Hamel assassiné, soit les prêtres pédophiles, soit le mariage homosexuel. C'était toujours des thèmes un petit peu polémiques ou dramatiques. Là, ils veulent quelque chose de plus réfléchi. Ils parlent d'identité, mais plutôt d'identité heureuse, comme dirait Alain Juppé, une identité heureuse qui rappelle les valeurs de la République, mais qui ne veut exclure personne de la République, quelle que soit la religion, la nationalité. Mais il y a incontestablement une dimension pape François, une dimension Alain Juppé, et puis une dimension conférence épiscopale.
Odon Vallée, historien des religions, avec Louis Belenfant. Vers la fin de l'avantage fiscal accordé au diesel en France, une annonce qui fait suite au rapport parlementaire présenté par l'ancienne ministre de l'écologie Cécile Duflot, rapport rédigé après le scandale des voitures polluantes chez Volkswagen. Pour l'instant, la mesure ne va toucher que les flottes de véhicules achetées par les entreprises. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Tara.
Peut-on vraiment dire que cette annonce du ministère va précipiter le déclin du diesel en France?
Alors, en harmonisant la fiscalité de l'essence sur celle du diesel, pour les véhicules d'entreprise, Ségolène Royal, la ministre de l'Énergie, espère inciter les sociétés à acheter plus de voitures essence. Elles pourront donc, à partir du 1er janvier prochain, eh bien déduire 80% de la TVA sur leur carburant si ces entreprises font le choix de l'essence. Le gouvernement espère ainsi réduire les émissions de dioxyde d'azote liées au diesel, ce qu'on appelle le NOx, car même si la tendance commence à s'inverser, avec un peu plus de 50% de voitures diesel, eh bien, la France possède l'un des plus grands parcs en Europe et même dans le monde. Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire automobile, CTLM.
À terme, quand les prix seront les mêmes, les prix de l'essence et du diesel, puisque c'est l'objectif affiché, eh bien, on peut penser que plus personne ou presque n'aura intérêt à acheter un véhicule diesel, parce que pour amortir le surcoût à l'achat d'un véhicule diesel, environ 15 à 20%, et les surcoûts aussi d'entretien, parce que ça coûte plus cher d'entretenir un véhicule diesel, il faudra faire non plus 20 000 km par an, mais plutôt 30 000, voire pour certains modèles 35 000 km par an. Personne aujourd'hui ou presque ne fait 35 000 km par an.
Alors, de leur côté, les constructeurs comme PSA demandent un délai de 5 ans et non pas de 2 ans, comme le préconise le gouvernement, pour pouvoir mieux s'adapter au niveau de leur modèle. Car cela représente plusieurs milliards d'euros, notamment en recherche et développement, pour avoir des véhicules et des utilitaires en particulier qui passeront du diesel à l'essence. Une mesure qui inquiète aussi beaucoup les syndicats dans le secteur de l'automobile, puisqu'avec la fin du diesel programmé par le gouvernement, ce sont pas moins de 18 000 emplois qui seraient menacés en France.
Merci beaucoup. Et puis, je me suis donc trompée tout à l'heure, c'est Delphine Bateau qui a présenté le rapport parlementaire sur le diesel hier au gouvernement. Où l'on reparle du CETA, le traité de libre-échange qui est quasiment finalisé entre l'Union européenne et le Canada. Signature prévue le 27 octobre. Manuel Valls est à Ottawa pour entre autres souligner l'importance de ce rapprochement commercial aux yeux de la France. Pourtant, plusieurs voix s'élèvent en Europe pour contrer ce texte. C'était hier José Bové qui se voyait interdire l'entrée du territoire canadien et qui en a profité pour dire tout le mal qu'il pense du traité. Demain, en Belgique, la Fédération de Wallonie doit se prononcer sur une résolution qui vise à bloquer l'accord. Et puis ce matin, en Allemagne, ça tangue. Bonsoir Anne-Laure Chouin. Alors la Cour constitutionnelle de Karlsruhe devait se prononcer sur l'application de ce CETA.
Oui, suite à l'une des plus grosses actions collectives d'initiative citoyenne que l'Allemagne ait connue, la plainte de près de 200 000 citoyens et du groupe parlementaire Die Linke, qui estime que le CETA contrevient à la constitution allemande. Pourquoi ? À cause notamment de sa procédure de validation. Le CETA, une fois signé, pourrait entrer en vigueur avant que les parlements nationaux ne se soient prononcés. Par ailleurs, ce traité instaure le même mécanisme que dans le TTIP, à savoir des tribunaux d'arbitrage privés qui pourraient rendre une justice parallèle incompatible, estiment les plaignants, avec les processus judiciaires allemands. La Cour constitutionnelle était donc invitée à se prononcer et si, en apparence, elle a arbitré en faveur des pro-traités en autorisant le gouvernement allemand à valider ce CETA, elle a également introduit toute une série de conditions. D'abord, que l'Allemagne puisse sortir à tout moment du traité, au cas où il s'avérerait qu'il n'est pas en accord avec la Constitution. Et sur cette constitutionnalité, la Cour se prononcera plus tard. Ensuite, que les décisions des fameux tribunaux arbitraux puissent être soumises à un contrôle démocratique. Enfin, le gouvernement allemand doit s'assurer que l'adoption du CETA avant sa ratification par le Bundestag s'applique bien aux parties du traité qui ne sont de la compétence que de l'Union européenne et pas de l'Allemagne. Et en effet, si ce traité est bien signé le 27 octobre, il sera immédiatement applicable, mais sur les seules compétences de l'Union. Pour tout ce qui concerne les États, rien ne doit se faire avant ratification par les parlements nationaux.
Merci Anne-Laure Chouin. Le divorce ne sera pas acrimonieux, c'est une promesse de Boris Johnson, le chef de la diplomatie britannique. Cela dit, au sein même du Royaume-Uni, la perspective du Brexit est loin d'être vécue comme une séparation à l'amiable. Ainsi, l'Écosse a-t-elle bien l'intention de se désolidariser de cette initiative? Comment? En votant peut-être pour son indépendance. Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, vient en effet d'annoncer qu'il y aurait un nouveau référendum en 2014. Souvenez-vous, les Écossais, c'était 55% à avoir voulu rester fidèle à la couronne britannique, mais le Brexit change tout. Antoine Gignot est à Londres.
L'Écosse n'a pas choisi d'être dans cette situation, c'est vous qui nous y avez plongé. L'attaque est frontale. À la tribune, Nicola Sturgeon demande le respect des Écossais qui, à 62%, ont voté contre le Brexit avant de dénoncer la xénophobie des conservateurs qui, dit-elle, ont adopté tous les codes de l'extrême droite, l'intolérance, le repli sur soi et la bière. Les élus écossais, dit-elle, s'opposeront à une sortie du marché unique et si ça ne suffit pas, l'Écosse n'hésitera pas à se séparer du Royaume-Uni.
Je suis déterminée à donner la possibilité à l'Écosse de reconsidérer la question de l'indépendance et à le faire avant que le Royaume-Uni ne quitte l'Union européenne si c'est nécessaire pour protéger les intérêts de notre pays. Je peux vous confirmer que le projet de loi pour un référendum sur l'indépendance sera publié pour consultation la semaine prochaine.
Car dans ce bras de fer avec Westminster, les Écossais doivent aller vite, poser des jalons avant le début des négociations officielles pour obtenir un Brexit à la carte, un peu à l'image du Groenland qui en 1985 était sorti de l'Union européenne alors que le Danemark, membre du même royaume, continuait d'en faire partie. Alors face à la ligne politique de Londres qui clame l'indivisibilité du Royaume-Uni, Nicola Sturgeon tente de discréditer les ministres britanniques, Boris Johnson, David Davis, Liam Fox, dit-elle, trois hommes dans un bateau mais qui n'ont pas les rames pour avancer.
Antoine Gignot à Londres. Il était arrivé au pouvoir en 1946, 70 ans de règne. C'était le monarque resté le plus longtemps en exercice au monde. Le plus riche aussi peut-être. Le roi de Thaïlande vient de mourir. Sa disparition crée un vide immense. Il était le ciment de la société thaïlandaise, déchirée depuis une dizaine d'années par une grave crise politique. Elle vit maintenant sous régime militaire depuis 2 ans et demi. Normalement, son fils doit lui succéder. À Bangkok, le récit d'Arnaud Dubus.
La plus grande partie de la population thaïlandaise est née sous le règne du roi Pumipon. Celui-ci avait acquis une aura quasi mystique, notamment du fait de ses projets de développement pour les plus démunis. Il était aussi intervenu à plusieurs reprises lors de graves crises politiques, apparaissant comme un arbitre impartial. Pour les Thaïlandais, quelles que soient leurs conditions sociales et leur origine ethnique, il était le symbole de l'unité nationale, celui dans lequel chacun se reconnaissait comme citoyen d'une même nation. Sa mort va entraîner immanquablement un affaiblissement de la monarchie, d'autant que le probable successeur, le prince Vajiralongkorn, est beaucoup moins populaire que son père. Or, la société thaïlandaise est divisée politiquement depuis 10 ans entre chemises jaunes, qui veulent maintenir le statu quo, et chemises rouges, partisans du changement social. Qui va remplir le vide béant laissé par la mort du roi? Probablement les militaires dans un premier temps, lesquels se maintiendraient au pouvoir durant encore plusieurs années. Mais bien des incertitudes pèsent sur l'avenir, des tensions pourraient apparaître entre les militaires et le nouveau souverain, d'autant plus si celui-ci se refuse à n'être qu'un monarque protocolaire.
Arnaud Dubus à Bangkok. Regain de violence en Centrafrique où la France met fin ce mois-ci à l'opération Sangaris. 30 personnes au moins ont été tuées du côté de Kaba Bandoro. C'est à 350 km de la capitale Bangui. Des miliciens de l'ex-Séléka s'en sont pris à une radio locale. Les ONG ont dû évacuer la région. Correspondance de Saber Djendoubi sur place.
Et oui, la situation est toujours tendue à Kaba Bandoro. Plus de 5000 déplacés se rassemblaient encore ce matin à la hâte autour des bâtiments de l'ONU en quête de protection et de sécurité. Il faut dire que leur camp situé proche de l'évêché a concentré toute la journée d'hier la violence d'un groupe armé apparenté aux ex-Séléka. Des abris d'urgence et des huttes brûlées, les bâtiments du peu d'ONG présentes sur place, ainsi que la maison de l'évêque ont été pillés selon plusieurs sources locales. Des corps calcinés gisaient sur le sol, plusieurs personnes, dont le sacristain venu sonner les cloches pour avertir les habitants, ont été assassinés. Les humanitaires ont réussi, eux, à se réfugier à l'intérieur du bâtiment de la MINUSCA, la force onusienne en Centrafrique. La MINUSCA, qui assure la sécurité dans le pays, a dans un premier temps été complètement débordée par les événements. Or, Par la suite, les casques bleus ont réussi à repousser les combattants au sud de la ville, notamment à l'aide d'un hélicoptère de combat. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qui a déclenché cette vague de violence. Il s'agirait d'une histoire de braquage râpé, soldé par la mort d'un ex-Seleka. Ce que l'on sait en revanche, c'est que depuis le mois de juin, il y a une recrudescence des violences partout dans le pays.
Saber Djendoubi, en Centrafrique, le temps, l'Hérault est toujours placé en vigilance orange jusqu'à 20h ce soir. Demain, beaucoup de pluie et d'orage sur la moitié est, un temps plus calme et ensoleillé à l'ouest. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun.